France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Laurie Lefebvre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cours de mes interventions dans cette émission sur l'inconscient, j'ai choisi de vous parler d'une parole entendue lors d'une séance, une parole qui peut être celle de beaucoup d'entre nous, d'une expression, d'un mot, pour vous évoquer la façon dont j'exerce la psychanalyse, la façon dont on peut entendre l'inconscient et travailler avec l'inconscient, la façon d'être travaillé par l'inconscient. Lors de la séance de juin, je vous ai parlé des mots qui blessent, des insultes, et des injures qui peuvent être des effractions et des traumatismes. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur les souvenirs. Ce drôle de chapitre de l'histoire de chacun qui peut être oublié, écrit, réécrit, reconstruit, furtif, insistant, et qui joue avec la réalité effective, qui se joue parfois d'elle. Un souvenir, cela peut être une bribe, un mot, une sensation, qui, détaché de son histoire, laisse le pulse de la mémoire incomplet. Un patient me dit « Je n'ai aucun souvenir de ma jeunesse. » Une jeune femme me dit que lorsqu'elle parle avec son frère du même événement, il ne se raconte pas la même histoire. Une autre encore me dit qu'elle aime bien s'inventer des souvenirs, que cela lui donne l'impression d'avoir une histoire. Les souvenirs peuvent apparaître ou disparaître. Ils peuvent advenir au détour d'une sensation physique, d'une odeur, comme la fameuse Madeleine de Proust, dont je reparlerai un peu plus tard, à la faveur d'une image. La question des souvenirs et de la mémoire est aujourd'hui à la croisée des neurosciences, avec les travaux sur la complexité du cerveau et sa plasticité neuronale, mais aussi de la psychologie cognitive et de la psychanalyse. Après avoir partagé avec vous ces réflexions sur les souvenirs, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre page de l'inconscient sur franceinter.fr.
L'inconscient avec Laurie Lefebvre sur France Inter.
Dans le contexte de l'analyse, ce souvenir est aussi et surtout un acte de langage. Car comme un rêve, un souvenir est une image, une sensation corporelle peut-être, mais il ne peut prendre consistance que dans le langage, que par la parole, et cette parole est adressée à l'analyste. Ce qui est important avec les souvenirs, c'est leur rapport à l'inconscient du patient, au refoulement du patient. Pour la psychanalyse, peu importe que les souvenirs soient vrais ou soient faux. Et qu'est-ce que cela voudrait dire d'ailleurs ? Le psychanalyste n'est ni un détective, ni un commissaire qui veut connaître la véracité d'un événement. Dans le champ de la psychanalyse, les souvenirs ne sont pas les témoins d'un fait, ce sont les témoins d'un inconscient. Je voudrais évoquer ici une petite expérience de la vie quotidienne que chacun d'entre nous peut faire. Vous est-il déjà arrivé, lors d'un dîner ou d'une soirée, de parler avec des amis proches ou des membres de votre famille d'un même événement et de vous apercevoir qu'aucun d'entre vous n'en a le même souvenir? Lors d'une fête, lors d'un enterrement, lors d'un dîner d'anniversaire du père ou de la grand-mère ou encore d'un ami de 30 ans, chacun se souviendra, depuis son propre point de vue, depuis sa propre histoire, d'un élément précis de cette soirée ou de ce moment. Ce ne sera jamais le même. Et sans doute, chacun sera persuadé que son souvenir est celui de la réalité effective. Parfois, les photos rappellent quelques éléments du passé. Mais ce sont la mémoire et les traces de la mémoire, c'est-à-dire les traces mnésiques de chacun, qui constituent le carnet d'histoire intime et inconsciente du sujet, avec son propre montage, avec ses agencements singuliers. Ces agencements disent l'histoire inconsciente de chacun. Une patiente me dit qu'elle est étonnée que son frère aîné se souvienne de ses premiers petits copains lorsqu'elle était adolescente, alors qu'elle-même n'en a pas de souvenir précis. Je l'invite à associer sur cet étonnement. Elle fait l'hypothèse de la jalousie de son frère concernant ses relations. Les souvenirs disent ici, plus que le désintérêt pour ses copains d'alors, un intérêt tourné vers son frère, et la place qu'elle joue ou pense occuper pour lui. Fantasme, désir inconscient, c'est autre chose qu'il revient à chacun de déplier sur un divan. Il n'y a jamais d'interprétation toute faite. Les souvenirs en psychanalyse sont un chapitre de la fiction du patient. Fiction au sens de son étymologie latine, fingere, c'est-à-dire façonner, pétrir, imaginer. C'est donc ce que le patient produit comme récit de soi qui est intéressant et qui est important. Et dans une psychanalyse, c'est au patient de produire, d'entendre et de s'approprier ce récit de soi. Pour Freud, rien ne se perd, tout se transforme dans la vie psychique. Pour lui, la mémoire est une matière plastique, comme de la cire. C'est ainsi que Freud la présente dans son texte « Note sur le bloc-notes magique ». Un bloc-notes magique, pour Freud, c'est comme l'ardoise magique pour les enfants. Quand ils effacent un texte avec un geste et qu'ils écrivent et qu'ils réeffacent et qu'ils écrivent et qu'ils réeffacent. L'appareil psychique et sa propriété principale qu'est la mémoire seraient, selon Freud, précisément comme ce bloc-notes magique qui promet d'être plus efficace que la feuille de papier. Freud écrit « Le bloc-notes magique est une surface d'accueil toujours disponible et il conserve ses traces des souvenirs précédents. » Freud reconnaît alors aux matériaux de la mémoire la plasticité de la cire, une élasticité et une mobilité permanente. La mémoire et les souvenirs qui lui sont liés sont sans cesse en mouvement et se transforment sans cesse aussi. En 1929, dans son texte « Malaise dans la civilisation », Freud se sert de la métaphore de la construction de Rome depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours pour évoquer la vie psychique. Cette vie psychique où rien ne se perd, mais où tout est recouvert et se transforme. Voici ce qu'écrit Freud. Nous penchons pour l'hypothèse qui présume que rien de ce qui s'est formé dans la vie psychique ne peut disparaître, que tout reste conservé d'une manière ou d'une autre et peut réapparaître dans des circonstances particulières. On peut se faire une idée de la teneur de cette hypothèse, écrit Freud, à l'aide d'un parallèle tiré d'un autre domaine. Prenons comme exemple approximatif l'évolution de Rome, la ville éternelle. Freud poursuit par l'image de la construction de Rome par strates, et cette image est suggestive. Écoutons ce passage, car la métaphore est assez visuelle. Il faut donc imaginer ces couches successives. Freud écrit « Les historiens nous apprennent que la Rome la plus ancienne fut la Roma Quadrata, une agglomération close par des murs d'enceinte sur le Palatin. » Après vint la phase du Septimonium, qui regroupa les villages des diverses collines, puis apparut la ville délimitée par la muraille servienne, et plus tard encore, après toutes les transformations de l'époque républicaine et des premiers empereurs, la cité que l'empereur Aurélien entoura de son mur. Freud poursuit. Ce qui occupe à présent ces lieux, ce sont des ruines, non de ces bâtiments eux-mêmes, mais de leur rénovation des époques plus tardives suite à des destructions et à des incendies. Freud évoque ensuite la Rome de la Renaissance construite sur les ruines de la Rome antique. Après cette description, il construit une analogie. Freud écrit « Faisons à présent l'hypothèse fantaisiste que Rome ne soit pas un lieu d'habitation humaine, mais un être psychique au passé aussi riche et ancien, où rien de ce qui s'est produit jadis n'a disparu. » Nous l'entendons, pour Freud, les souvenirs sont les traces sédimentées, stratifiées de notre mémoire. Il y a des événements de notre passé qui restent enfouis, mais qui constituent malgré tout le sol de notre construction psychique. Des événements de notre passé sont refoulés. Leur représentation a disparu, mais pas les émotions ou les affects qui les accompagnent. Freud dit que ce qui est refoulé, ce sont les scènes ou les représentations de ces événements, mais pas les affects qui ont accompagné ces événements. Ces moments refoulés peuvent être parfois traumatiques, mais pas toujours. La mémoire est plastique, comme le dit Freud, et parfois il est nécessaire d'oublier. Imaginons que toutes les constructions historiques de Rome soient visibles, les unes imbriquées dans les autres, les uns sur les autres, le Palatin avec le Capitole. Rome serait invivable, inhabitable. Il y a donc des oublis nécessaires. On entend souvent dire qu'il suffirait de se souvenir pour aller mieux. Mais retrouver un souvenir n'est pas forcément une solution, n'est pas forcément une résolution. Une patiente me dit « Pourquoi est-ce que je souffre encore alors que désormais j'ai retrouvé le souvenir de l'événement qui me hantait ?» Freud a cru un temps, au début de son invention de la méthode psychanalytique, qu'il suffisait de croire en un retour du souvenir du traumatisme pour que le patient soit guéri de ses symptômes. Sa théorie, sur ce point, a beaucoup évolué. En effet, croire en cette « solution » reviendrait à croire à l'illusion d'un discours historique qui se suffirait à lui-même. C'est-à-dire que l'histoire de chacun serait strictement le passé de chacun. Il suffirait que le passé revienne, et que j'en parle, ou que je le raconte, pour guérir d'un souvenir qui me fait souffrir. Mais c'est sans compter sur les transformations de la mémoire, sur les transformations dues au récit et à la parole de chacun.
La mémoire peut changer la disposition d'une pièce, la couleur d'une voiture. Les souvenirs sont malléables. Ce sont des interprétations, rien de plus. Ils ne font pas le poids face à la réalité.
Il ne suffit pas de se souvenir. Il ne suffit pas de verbaliser, comme on dit. La remémoration des souvenirs n'est pas simplement le récit de ce souvenir, car ce récit est adressé et il s'opère par et dans le transfert. Cette remémoration est, dans ce contexte, nécessairement remaniée par le récit actuel qu'en fait le patient. Comme le dit Freud, notre mécanisme psychique s'est établi par un processus de stratification. Les matériaux de notre mémoire se trouvent de temps en temps remaniés, souvent par les circonstances actuelles. En somme, ce que dit Freud, c'est que l'on fabrique des souvenirs. Les traces de notre mémoire ressurgissent remaniées en fonction des circonstances du présent. Une patiente raconte comment, en retrouvant des amis perdus de vue depuis plus de 30 ans, des souvenirs d'elle et de ses amis ont ressurgi. Souvenirs transformés. Elle se souvenait qu'elles étaient parties ensemble à la campagne pour réviser le bac. Une amie lui rappelle que c'était son père qui les avait accompagnées. Elle ne s'en souvenait pas, elle ne se souvenait de rien. Et, dit-elle, à mesure que ses amis racontent, lui reviennent les images de vacances avec son père. Souvenirs oubliés, souvenirs ressurgis, souvenirs remaniés par les récits de ses amis.
L'inconscient avec Laurie Lefebvre sur France Inter.
Mais revenons un peu en arrière. Freud a cru, au début de sa théorisation, aux effets cathartiques de la seule remémoration de la retrouvaille des événements traumatiques. La catharsis, c'est la purification au sens étymologique. Et ici, c'est l'idée d'une délivrance. Délivrance d'un affect ou d'une souffrance. Retrouver la représentation oubliée, la mettre en lien avec un affect, permet, selon l'hypothèse de Freud, dans un premier temps, qu'ait lieu ce qu'il nomme une abréaction, une extériorisation émotionnelle du refoulement. L'affect lié à l'événement est encore actif alors que la représentation de l'événement est refoulée. Il y a une évolution de la théorisation de Freud. Pour lui, la mémoire était ce qu'elle était pour la psychologie de son temps et qui est encore en grande partie celle de notre temps, à savoir un ensemble de souvenirs que l'on a mais qui ne sont pas toujours accessibles. En faisant remonter ces souvenirs, convenablement ordonnés, la mémoire pouvait se remettre en mouvement. Par la parole, le patient pouvait alors remettre en bonne place ce qu'il avait affecté. Ce processus a l'air simple et mécanique. Mais justement, avec la découverte du transfert, Freud met l'accent sur les désirs inconscients et les fantasmes plutôt que sur la remémoration et les souvenirs. Ce n'est donc plus à proprement parler l'absence de souvenirs, mais bien la persistance du désir inconscient et des fantasmes qui sont au cœur de la psychanalyse. Une jeune femme me raconte l'angoisse qu'elle avait, adolescente, lorsqu'elle s'endormait avec l'image de Jésus-Christ qui dansait au-dessus d'elle. Son angoisse provenait de l'excitation qu'elle ressentait, dit-elle. Elle voulait chasser cette pensée, refusait cette image qui bien sûr s'obstinait à envahir son esprit lorsqu'elle cherchait le sommeil. En vain. Pour faire fuir l'image intrusive, elle déployait des stratégies de contournement le plus souvent peu efficaces. Jésus-Christ revenait toujours. L'angoisse de devenir folle lui serrait la gorge. Elle s'endormait tard et se réveillait épuisée. Dans sa chambre d'adolescente, frappée par la mort prématurée d'un frère aimé, elle avait des livres et des photos de famille, raconte-t-elle. Elle parlait souvent en séance du tapissage de ses murs, selon son expression. Tapissage par ses livres et par ses photos. Lors d'une séance où elle évoquait ce souvenir obsédant de Jésus-Christ, elle s'arrêta soudain, prise par un silence qui lui faisait revenir des images. Elle décrit les choses ainsi. « Il y avait une photo de mon frère chevelu et barbu, debout, sur une planche à roulettes, les bras en croix, comme Jésus-Christ. » Ici, l'irruption de cette image énoncée dans le contexte de l'analyse donne forme au lieu où l'interprétation devient possible. Elle n'a rien ajouté, rien expliqué. Elle se mit à rire à l'évocation de cette image revenue, de ce souvenir du portrait de son frère en Jésus-Christ. L'image réapparue n'offrait pas tant la retrouvaille d'un souvenir oublié que la rencontre avec un affect corporel. Le lien entre la pulsion et le temps devenait possible. Je l'ai laissé rire de ce moment de retrouvaille sans en attendre davantage. Il y a parfois un effet traumatisant à attendre du patient qu'il raconte ses souvenirs d'enfance ou s'il s'en souvient d'en attendre une interprétation immédiate ou même d'en faire une interprétation. Écouter un patient n'est pas attendre une interprétation immédiate d'un souvenir. C'est prendre le moment présent pour ce qu'il est. Un surgissement et non un dévoilement. Une production psychique et pas seulement un déchiffrement du sens. Il est possible ici, dans cette séance, que l'image de Jésus-Christ dansant ait constitué pour cette jeune femme ce que Freud a nommé un souvenir écran. Freud utilise le terme de souvenir écran pour désigner, je le cite, un souvenir infantile se caractérisant à la fois par sa netteté particulière et l'apparente insignifiance de son contenu. Un souvenir écran est en psychanalyse un souvenir auquel le patient ne prête pas attention, mais qui au sein de l'économie psychique cache et masque un souvenir refoulé. Un jeune homme raconte comment il a gardé le souvenir d'un cahier bleu que lui prenait souvent son voisin de classe. Il laisse surgir ce souvenir qui lui paraît anodin et parfois il fait des liens et des associations avec la couleur bleue. La blouse bleue de son père épicier, une écharpe bleue offerte par une petite amie et qu'il avait perdue. Il dit lui-même que ce sont des souvenirs flottants. Un jour, lors d'une séance, surgit un souvenir. Il dit « Je me souviens que mon frère m'avait battu après avoir perdu au Monopoly. J'avais des bleus partout et c'est moi qui m'étais fait engueuler. Je pense que j'ai voulu le tuer. » Dans une lettre qu'il écrit à un ami, Freud dit « Souvent l'indifférent reste en mémoire, alors que ce qui est significatif est réprimé. »
Je me souviens qu'au Monopoly, l'avenue de Breteuil est verte, l'avenue Henri-Martin rouge et l'avenue Mozart orange.
Ce que Freud avance, c'est que parfois les sujets gardent des souvenirs d'enfance assez banals, comme par exemple les souvenirs de contes ou de personnes qui leur racontaient des histoires pour les endormir enfants. Freud dit ainsi, « Chez certaines personnes, le souvenir de leur conte préféré a pris la place de leur propre souvenir d'enfance. Ils ont élevé les contes au rang de souvenirs écran. » On l'entend, ce qui est important ici, c'est que les souvenirs écran constituent, aussi banals qu'ils puissent être, le récit subjectif et l'histoire inconsciente du patient. En somme, la façon dont il fabrique ses propres ressources et ses capacités à vivre ses désirs. Lorsque le patient retrouve la plasticité de sa mémoire, notamment par les rêves dans la cure, il retrouve également la possibilité de se créer de nouveau des souvenirs. Il se remet alors dans un temps propre, dans son récit singulier. Se créer de nouveaux souvenirs, c'est reprendre le temps de sa mémoire. Ainsi, une patiente qui a plus de 80 ans vient me voir pour, me dit-elle, se créer de nouveaux souvenirs. Et c'est un moment important pour elle. L'écrivain Georges Perec, connu pour avoir beaucoup travaillé sur la mémoire et les souvenirs, écrit « Pour ne pas perdre de temps, je ne dirai que ce qui pourra servir à raviver le souvenir de moi-même. »
Je me souviens que mon oncle avait une 11 chevaux immatriculée 7070 RL2. Je me souviens du tac-tac. Je me souviens d'un anglais manchot qui battait tout le monde au ping-pong à Château 2. Je me souviens de ploum-ploum tralala. Je me souviens qu'un ami de mon cousin Henri restait toute la journée en robe de chambre quand il préparait ses examens.
Il s'agit donc non pas de se souvenir de l'autre disparu, mais de raviver un temps du souvenir de soi, de remettre du vivant dans la mémoire.
Je me souviens des parties de barbu aux petites dalles.
Georges Perec, dont les parents ont été déportés, ne cessait de dire qu'il avait un rapport singulier à ses souvenirs. Il écrit « Je n'ai pas de souvenirs d'enfance. Jusqu'à ma 12e année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes. J'ai perdu mon père à 4 ans, ma mère à 6. » Perec a fait son analyse avec Jean-Bertrand Pontalis. Pontalis est un psychanalyste français, aujourd'hui connu pour avoir établi avec Jean Laplanche le dictionnaire de la psychanalyse. En relatant l'analyse de Georges Perec, Pontalis écrit dans un texte qui s'intitule « Un temps qui ne passe pas », je le cite. Je n'ai pas de souvenir d'enfance. Ainsi s'inaugure et se poursuit tout un temps l'analyse de cet homme, une analyse que j'ai à plusieurs reprises évoquée répétitivement. Comme si je devais prendre en charge, faire mienne, une mémoire d'enfance si affirmativement niée et qu'il m'appartenait de la maintenir indéfiniment en vie. Pourtant cet homme, cet enfant à l'enfance effacée, ne cesse de me fournir des preuves d'une mémoire exceptionnelle. Pas une séance sans un récit de rêve d'une extrême précision et riche en détails. Pas un appartement où il est résidé dont il ne puisse faire l'inventaire. Pas un nom de personne ou de ville, pas un titre de livre qui manque à l'appel, et jamais de mots qui achoppent.
Je me souviens que le premier micro-sillon que j'ai écouté était le concerto pour hautbois et orchestre de Cimarosa. Je me souviens des postes à Galène. Je me souviens des séances du jeudi après-midi au cinéma Royal Passy. Il y avait un film qui s'appelait « Les Trois Desperados » et un autre « Les Cinq Balles d'Argent ». Je me souviens que le vrai nom de Lord Mountbatten était Battenberg. Je me souviens des foulards. Je me souviens de la cinémathèque de l'avenue de Messine. Je me souviens du match Cerdan. Je me souviens du jour où le Japon. Je me souviens de l'époque où la mode était au chemin. Je me souviens que j'avais commencé une collection de boîtes d'allumettes et de paquets de cigarettes.
Perec écrit « Je me sens étranger par rapport à quelque chose de moi-même. Être différent, mais non pas tellement différent des autres que différent des miens. » Je ne parle pas la langue que mes parents parlaient. Je ne partage aucun des souvenirs qu'ils purent avoir. Quelque chose qui était à eux, qui faisait qu'ils étaient eux, leur histoire, leur culture, leur croyance, leur espoir, ne m'a pas été transmis. Il s'agit alors, pour un patient, non pas tant de la restitution d'un passé, mais plutôt d'une appropriation de la perte, d'une subjectivation de la perte, de la recomposition d'une certaine fiction, d'une invention même, non figée. Le travail psychique de Georges Perec a sans cesse été de raviver le souvenir de lui-même. Il écrit « Comment naît un souvenir ? C'est une pratique assez curieuse. Je suis devant ma table de travail, dans un café, un aéroport ou un train, et j'essaye de retrouver un événement qui n'a pas d'importance, qui soit banal, désuet, et qui, au moment où je le retrouve, va déclencher quelque chose. » Par exemple, quand j'écris « Je me souviens que ma première bicyclette avait des pneus pleins », ce n'est pas innocent. J'en ai encore la sensation physique. Et pourtant, apparemment, c'est neutre. Ce qui est essentiel ici dans ce que dit Perec, c'est à la fois que quelque chose se révèle à partir d'un détail et que cette révélation est une appropriation physique. Le souvenir relève aussi d'une sensation physique. Il y a une sensorialité du souvenir. Le corps est affecté par le temps. Le souvenir s'incarne alors dans la parole. Dans son texte sur le travail de mémoire, Georges Perec écrit encore « Il y a trois aspects dans le travail sur la mémorisation. D'abord, la quotidienneté complètement mise à plat. Ensuite, la recherche de ma propre histoire d'une manière traditionnelle. Et puis enfin, cette mémoire fictionnelle. » Aussi, s'agit-il de permettre à l'analysant, au patient, de s'approprier un récit et un temps psychique. Le nouage qu'il fabrique entre ce qui est, ce qui a été et ce qui aurait pu être provoque la remise en mouvement d'une temporalité psychique. Il y a, comme le dit l'écrivain américain Faulkner, une chair du souvenir, et cette chair du souvenir fait émerger une sensation corporelle. Odeur, toucher, oui, les souvenirs émergent aussi par les sens en éveil. Qui ne se souvient d'un parfum, d'une odeur, d'une musique lui rappelant un événement? Le corps est le lieu de l'émergence des souvenirs, et cette émergence peut être source de chagrin et d'angoisse. Je cite encore Faulkner. « Car si le souvenir existe en dehors de la chair, ce ne sera pas le souvenir, car il ne saura pas ce dont il se souvient. Oui, entre le chagrin et le néant, c'est le chagrin que je choisis. » Lors d'une analyse, lorsque les souvenirs reviennent, ils sortent d'un certain néant et le chagrin qu'ils peuvent faire émerger est la trace du travail de l'inconscient. Tout comme la pluie sur Nantes, qui fait émerger le souvenir de son père dans la chanson de Barbara.
Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin.
Chagrin, mais aussi douce nostalgie, comme la Madeleine de Proust. Lorsqu'on parle de souvenirs et de mémoire, difficile de ne pas évoquer la Madeleine de Proust, cette chair du souvenir. Proust raconte comment, en dégustant un thé et une madeleine, le souvenir de sa tante Léonie à Combray lui revient.
Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistance, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir.
On l'entend ? Proust, par la madeleine trempée dans le thé, fait émerger des images et des souvenirs, des ruines où ce souvenir semblait être enfoui pour toujours.
Et je me souviens.
En somme, à l'écoute du corps, de sa sensorialité et de ses paroles, de ses récits de fiction,
ciel de
le patient peut raviver le souvenir de lui-même.
Rends mon cœur chagrin.
Il s'agit pour lui de reconstruire sur les ruines du passé cette fiction réelle, pour dessiner les contours d'un futur, pour remettre en mouvement la mémoire, remettre en mouvement une certaine vitalité.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec Laurie Lefebvre.
Je répondrai dans un instant aux questions que m'ont adressées les auditrices et les auditeurs qui ont déjà écouté le podcast. Je vous rappelle que nos épisodes sont disponibles sur les plateformes d'écoute et que vous pouvez nous laisser, avant la diffusion à l'antenne, vos questions sur notre répondeur au 01 56 40 64 04.
J'ai écouté ce qu'on m'a dit, puis j'ai fait l'inverse. They don't care about us, babe. Je redeviens gosse, assis sur le pilori. acheter des toiles dont je ne connais plus le prix. Seul dans un bus de nuit, 12 heures de route sans réseau, sans wifi. Aucun moyen de savoir où je suis. Mon âme s'en va guérir. Perdido entre los baianos. Oh, je n'ai pensé qu'à ça. L'impression de vivre les tableaux de mon papa, garni de ces âmes qui ne croient qu'en ce qu'elles ne voient pas. Baya, 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 baya. De grandir, mon propre guide n'a cessé de me dire:
ne t'en va pas, ne t'en va pas. Si tu y vas, attention à toi. J'ai été là-bas, vécu là-bas, et j'y ai vu des champs de chez moi. Ne t'en va pas, ne t'en va pas. Si tu y vas, attention à toi. J'ai été là-bas, vécu là-bas, et j'y ai vu des champs de chez moi.
C'est à vous maintenant de poser vos questions et je vous écoute.
Bonjour, je suis Déborah et ce message concerne l'émission sur les souvenirs de Laurie Loffert. J'ai été particulièrement intéressée par cette émission parce qu'elle me touche de près. Je fais partie des personnes qui ont très peu de mémoire de l'enfance et de l'adolescence. Et j'ai 45 ans aujourd'hui et cette sorte d'amnésie partielle m'a poussée à poser des questions à ma mère pour m'aider à retrouver des moments de mon enfance. Et en fait, à chaque fois, je lui posais une question ponctuelle, comme comment j'ai appris à nager ou autre, elle se rappelait de rien non plus. Donc, de manière générale, j'ai eu très peu de récits des scènes de mon enfance par elle. Et du coup, je me demandais si notre mémoire n'est pas influencée par celle de nos parents à notre sujet. Voilà. Merci beaucoup.
Merci, Déborah, de votre témoignage, de votre question. Je ne sais pas très bien ce que vous entendez par influencer. Est-ce que c'est la façon dont votre mère ne se souvient pas de certaines scènes qui influencent votre propre amnésie partielle? Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ce qui est intéressant dans le témoignage que vous faites, c'est que si votre mère se souvient de quelque chose, notamment de la façon dont vous avez appris à nager, ce sont ses souvenirs, c'est son récit. Peut-être que son récit peut susciter quelque chose chez vous, ou pas. Mais la question que je me pose, moi, comme analyste, c'est pourquoi nous faut-il nous rappeler nécessairement de certaines choses? En fait, à quoi ça sert de se rappeler de certaines choses, si ce n'est de produire un certain récit de soi, de produire une certaine histoire de soi? Mais quand je dis une certaine histoire, c'est-à-dire, là encore, quelque chose qui est plus de l'ordre de la fiction, nécessaire, encore une fois, que d'une certaine réalité. Ne pas se souvenir, ça n'est pas nécessairement un problème. Produire un récit, produire de la fiction, quand on fait une analyse, comme le dit Pérec, raviver le souvenir de soi-même, ça c'est intéressant.
Bonjour et merci pour votre podcast sur l'inconscient que j'adore. Ma question porte sur la nécessité de découvrir ou révéler les souvenirs, en particulier les souvenirs qui sont traumatiques ou qui sont même simplement tristes. Est-ce qu'il n'y a pas une pulsion, un danger un peu voyeuriste de la psychanalyse à vouloir excaver les souvenirs enfouis, à tout prix et pour le principe de révéler une vérité cachée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans notre psychisme un réflexe naturel à vouloir enfouir certains souvenirs pour justement nous protéger, pour nous protéger de la douleur? Et donc à l'inverse, une pulsion un peu masochiste à vouloir raviver ou revivre des épisodes traumatiques. Voilà, merci beaucoup pour votre réponse et merci à toute l'équipe.
Merci beaucoup à Omar pour votre question. Alors vous avez tout à fait raison, je suis en tout cas tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il ne s'agit pas de creuser la terre comme ça jusqu'à, comme vous le dites très bien, excaver, exhumer des souvenirs de façon volontaire. C'est comme s'il s'agissait d'aller déterrer quelque chose que parfois il faut laisser tranquille, là où c'est. Et je crois que ce que vous dites est très important pour la pratique et la technique même de l'analyse. Un analyste n'est pas comme un détective privé qui irait avec le patient chercher quelque chose de caché dans la mémoire du patient. Ce que vous dites, c'est important parce que il ne s'agit pas d'un acte nécessairement volontaire ou volontariste d'aller chercher un souvenir. En revanche, ce qui est intéressant et ce qui montre précisément les traces de l'inconscient ou les formations de l'inconscient, c'est lorsqu'un souvenir surgit, à l'insu ou en tout cas indépendamment de la volonté du patient. Là, il se passe quelque chose. Mais aller chercher volontairement un souvenir, bon, c'est une fabrique. Et là, vous avez parfois des patients qui, pour faire plaisir à leur analyste, vont raconter un souvenir qu'ils ont et en fait dont ils savent très bien que c'est pas tout à fait ça dont il s'agit, quoi.
Bonjour, merci beaucoup pour cet épisode que j'ai beaucoup aimé. Et en l'écoutant, moi, je pensais en fait au mot « ressouvenir » que je trouve très beau et que je trouve très bien adapté à ce que vous dites du souvenir en psychanalyse, du fait que ce soit quelque chose de mouvant qui évolue au fur et à mesure qu'on revient dessus, qu'on en parle. Qu'on le met de côté et puis qu'on y revient et voilà. Et j'aime aussi beaucoup dans le souvenir et le ressouvenir du coup, le fait que ce soit à la fois un nom et puis à la fois un verbe aussi, donc quelque chose d'un peu figé et puis en même temps une action. Voilà, merci beaucoup, au revoir.
Merci beaucoup Justine pour votre réflexion très intéressante je trouve. Et vous avez raison de parler de ressouvenir, parce que comme vous le dites très bien, il y a quelque chose de mouvant qui se transforme sans cesse, qui évolue sans cesse lorsqu'on parle d'un souvenir ou lorsqu'on reparle d'un souvenir. D'ailleurs, ce qui est très intéressant à constater, c'est que dans une cure analytique, dans des séances, parfois des personnes racontent un souvenir et j'entends bien qu'il y a des modifications, des variations de ce souvenir. Donc comme vous le dites, il y a en somme une création, une fiction réelle bien sûr pour le patient, mais il y a sans cesse une fabrication des souvenirs et ça ne veut pas dire que le souvenir n'est pas vrai, d'ailleurs ça n'est pas tellement la question, mais qu'il a toujours des effets multiples sur la parole du patient.
Bonjour, je m'appelle Bérénice et ceci est un message pour Laurie Loffer. Alors, au sujet de votre podcast sur les souvenirs, je me suis rendu compte que j'avais très bonne mémoire dans mon rapport à l'autre parce que je restituais des souvenirs extrêmement précis sur un bruit, une odeur, une phrase mot pour mot, et je voyais les gens autour de moi, enfin je vois toujours les gens autour de moi me regarder avec des yeux ébahis en me disant « mais comment tu fais pour te souvenir de tout ça avec une telle acuité ?» Eh bien la réponse à cette question est « je ne sais pas comment je fais pour me souvenir de tout ça avec une telle acuité. » Alors évidemment c'est pas infaillible et je ne souhaite pas que ma mémoire soit infaillible, mais je comprends pas très bien ce que je fais. Alors ma question est la suivante. Autant je comprends très bien la fonction utile de l'hypomnésie, si je puis dire, mais je ne comprends pas très bien la fonction utile de l'hypermnésie. Qu'est-ce que je fais en faisant ça? Voilà, je vous remercie de votre réponse.
Merci Bérénice de ce témoignage, de cet apport. Vous dites que vous ne comprenez pas très bien ce que vous faites. Un analyste, une analyste vous renverrait la question « et qu'est-ce que vous en dites ?» C'est-à-dire, comment vous comprenez cela? Alors, en dehors de cette boutade, enfin, de ce renvoi, je ne sais pas très bien quelle peut être la fonction de l'hypermnésie, c'est le patient qui pourrait le dire. Mais ce que je trouve intéressant dans votre témoignage, c'est que, vous avez raison, on voit bien la nécessité de l'hypomnésie, comme vous le dites, c'est-à-dire une nécessité de se protéger parfois, parce qu'on ne peut pas tout retenir. Et l'hypermnésie, précisément, là encore, les neuroscientifiques vous répondraient différemment, mais l'hypermnésie, c'est peut-être comme une nécessité de ne rien perdre de son histoire, de tout retenir. Comme s'il s'agissait, là, de garder tous les livres que nous avons achetés, quoi, et de nourrir une bibliothèque jusqu'à ce qu'elle déborde. Donc parfois, il y a quelques livres dont on peut se débarrasser.
France Inter, l'inconscient, cette semaine avec Laurie Lefer.
What about the glass dandelion? What about the TV screen? What about the undeveloped cameras? Maybe we should bury these. What about the last of the good ones? What about the ceiling fans? What if we move back to New York? What about the moondrop light? You should take it, cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, cause I'm not gonna take it. You should take it. You should take it. What about the rainbow eucalyptus? What about the instruments? What about the cowboy junkies? What about the Afghan wigs? What about the mountain valley spring? What about the ornaments? What if I reinvented again? What about the moondrop light? You should take it, cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, cause I'm not gonna take it. You should take it, you should take it. You should take it, cause I'm not gonna take it. You should take it, if I miss it, I'll visit. You should take it. I'm not gonna take it. You should take it. You should take it. You should take it, cause I'm not gonna.
Nous poursuivons notre réflexion avec vos questions. Je vous écoute.
J'ai l'impression que nos souvenirs s'estompent avec le temps, même disparaissent parfois. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un souvenir ne disparaisse pas avec le temps et reste intact? Pourquoi on a du mal parfois à avouer qu'on ne se souvient plus, que l'on cherche du coup sans cesse dans notre mémoire jusqu'à nous rendre dingues?
Merci Aline de vos questions. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites sur le souvenir qui ne disparaît pas, parfois ça peut être une scène qui reste figée, qui reste traumatique, qui a inscrit quelque chose de tellement fort dans la matière plastique de la mémoire que ça ne bouge pas. Et c'est peut-être moins un souvenir qu'une empreinte, que quelque chose qui est une trace qui frappe la mémoire et qui, différemment du souvenir qui est mouvement, oui, qui est mouvement, qui est mouvant, ce souvenir qui ne disparaît pas est davantage comme une empreinte qui ne peut pas bouger. Le travail d'analyse, ce qui peut être intéressant, c'est de faire que cette empreinte bouge, justement, et que la mobilité, le mouvement qu'il va y avoir dans cette empreinte, précisément, va faire en sorte que cette empreinte devienne un souvenir.
Bonjour docteur, Frédéric, à Tours. Je vous remercie pour votre émission et vos éléments. Je me pose juste cette question, ayant vécu une enfance traumatique, j'ai beaucoup de mal à fixer des souvenirs même dans la vie quotidienne. On me parle de dissociation. Est-ce un point qui, pour vous, est majeur par rapport aux souvenirs et à la mémorisation? Merci, au revoir.
Merci Frédéric de votre témoignage et de votre question. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de dissociation, mais vous avez raison de dire, et c'est d'ailleurs ce que Freud rappelle aussi, lorsqu'il parle, en fait, lors d'un traumatisme, il y a comme un clivage qui se passe, un clivage, c'est-à-dire une forme de déchirure de la trame psychique, une néo-réalité qui est à côté d'une autre réalité. Et en fait, ce clivage peut avoir des effets nécessaires. C'est-à-dire que il ne s'agit pas toujours de se rappeler, et parfois le souvenir d'un traumatisme, il faut le faire remonter de façon lente, précautionneuse, avec tout un dispositif qui est celui de l'analyse. Parce que lorsqu'un souvenir revient de façon trop brutale, ça peut avoir parfois des effets d'angoisse ou des effets de déflagration, parfois, pour un patient. Donc, oui, la dissociation ou le clivage sont des modes de défense, des moyens de défense qui sont parfois nécessaires.
Hello France Inter, je pense qu'on peut se fier aux émotions que l'on ressentait au moment d'une scène, par exemple si on était heureux, triste, si on avait peur. En revanche, je pense que au fil du temps, on peut parfois, dans les souvenirs, avoir des choses qui évoluent, comme la scène autour, est-ce qu'il y avait du bruit ou non. Donc voilà mon avis sous les souvenirs. Bonne journée à tous.
Merci Cécile de votre témoignage, de votre question. Oui, vous avez raison, les souvenirs se transforment à la mesure du récit que l'on en fait. C'est-à-dire que on ne va pas nécessairement raconter un souvenir de la même façon toujours. Donc cette évolution, elle est prise aussi dans différents affects, dans différentes émotions. Et je crois que vous dites très bien que les choses évoluent autour, donc le dispositif dans lequel on est lorsque une scène, un souvenir revient, a des influences, a des effets sur la façon que l'on a de se souvenir.
Bonjour Olivier Baconnet, est-ce que notre capacité de souvenir se travaille? Est-ce que c'est tout le temps émotionnel, le souvenir? Merci.
Merci Olivier de votre question. Alors, je ne sais pas si ça se travaille. Vous auriez des réponses très différentes de la part de personnes qui travaillent depuis les neurosciences ou depuis des terrains où la mémoire est véritablement entamée, au plan organique. Là, bien sûr, il y a des personnes qui travaillent sur la possibilité de se souvenir de certaines choses. En psychanalyse, c'est un peu différent. Et je me réfère beaucoup, comme vous avez pu l'entendre dans l'émission, à ce que j'ai appelé la chair du souvenir, comme la Madeleine de Proust. Quand vous dites « est-ce que c'est tout le temps émotionnel ?», c'est lorsque c'est émotionnel que le souvenir peut avoir un certain sens pour le patient. Voilà. Je ne sais pas si c'est tout le temps émotionnel, mais lorsque ça l'est, c'est que ça dit quelque chose.
Bonjour, je m'appelle Claire. Je pense en effet que tous nos souvenirs sont tributaires des émotions qui les ont accompagnés les situations se sont posées à nous. Et ma question est en lien avec en fait la médecine chinoise qui souvent fait un lien entre les souvenirs ou les émotions que nous avons pu ressentir, notamment négatives, et qui les fait venir dans une partie du corps, et notamment en ce qui me concerne au niveau des poumons. Donc les souvenirs tristes, de tristesse, seraient en particulier liés à des maladies des poumons. Est-ce que ces maladies ou maladies s'inscrivent en lien avec les souvenirs, les mauvais souvenirs, dans les différentes parties de notre corps? Ceci est ma question. Merci à vous.
Bonjour Claire, et merci de cet apport sur la médecine chinoise. Malheureusement, je n'ai pas de compétences pour répondre à cette question. Je ne suis pas du tout au fait de ce que peut apporter la médecine chinoise. Et je dis malheureusement parce que je pense que c'est un immense savoir. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que les souvenirs sont en lien avec des effets somatiques, des effets de corps. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur ce que j'ai appelé la chair du souvenir. C'est qu'il y a des effets corporels du souvenir. Il peut y en avoir. Après, les localisations et le lien entre la localisation somatique et l'affect, ça, je ne sais pas vous répondre. Merci pour vos questions et merci à Julien Chabassu à la technique, Valentine Chedebois pour le choix du disque, Franck Olivard qui récolte vos questions et à Anaïs Reinhardt à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Clotilde Le Guil. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast sur notre page internet, L'Inconscient, sur franceinter.fr et lui laisser des messages par note vocale ou sur le répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 1er octobre pour mon prochain épisode.